7h50 sur RFI, notre invitée ce matin, Fabienne Quiriot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Fabienne Quiriot. Vous êtes directrice générale de la CNAP, la Convention nationale des associations de protection de l'enfant. Emmanuel Macron a visité hier jeudi un centre d'accueil pour enfants victimes de maltraitance à Soissons, au nord-est de Paris. Le président français entend restructurer profondément la protection de l'enfance au début de l'année prochaine. Il y a urgence, Fabienne Quiriot.
Alors d'abord, il faut se réjouir qu'au plus haut niveau, le chef de l'État puisse s'intéresser à cette question, qui mérite d'ailleurs tout l'intérêt de la nation. Pour ce qui est de restructurer toute la protection de l'enfance, il s'agit, me semble-t-il, de repenser l'adéquation des réponses aux besoins, beaucoup plus que de repenser le corpus juridique. Si vous voulez, moi je considère qu'aujourd'hui, nous avons eu deux lois successives relatives à la protection de l'enfance qui ont permis l'une et l'autre de compléter notre dispositif sur tous les plans. Et aujourd'hui, cette protection de l'enfance est sans doute dans une situation, on va dire, en tension, et qui mérite peut-être qu'on repense les modalités de mise en œuvre, que l'on repense la manière de faire.
Pour situer le problème, peut-être en France, un enfant est tué tous les 5 jours par l'un de ses parents. 73 000 enfants ont fait l'objet de mauvais traitements en 2016, 7 000 viols. Est-ce que le phénomène s'aggrave? Et si oui, pourquoi?
Alors, pour ce qui concerne les données, on a quelques difficultés à avoir une idée précise des données, quelles qu'elles soient. Moi, ce que je peux dire, peut-être, de la question de la maltraitance, en tout cas, et peut-être de tout ce qui peut survenir dans la vie d'un enfant, du point de vue des violences qui sont commises à son encontre, on est certainement en sous-estimation. Ça, c'est une réalité. On n'a pas de données précises, exhaustives aujourd'hui. Même l'Observatoire national de la protection de l'enfance, d'ailleurs, donne des estimations. Alors, ce que l'on constate, c'est que effectivement, on est dans une tendance à nouveau qui repart à la hausse. Hein, depuis, il y a une sorte de rupture depuis 2010-2012 qui nous interpelle. Hein, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on a un nombre d'enfants qui s'accroît, qui est en danger, finalement, parce qu'il s'agit de l'enfance en danger.
C'est dû à quoi? Quels sont les facteurs d'explication?
Je dirais qu'il y a d'une part, grossièrement, mais il y a d'une part le contexte socio-économique est une réalité qui fait que peut-être les conditions de vie se sont détériorées. Les familles sont peut-être plus elles-mêmes sous pression, quelquefois démunies face à des réalités éducatives ou qui concernent les enfants qui les mettent en difficulté. Peut-être ce sont des climats de violence qui sont plus favorisés du fait de ces facteurs de vie, mais aussi parce que, oui, les niveaux de vie se sont réduits. On voit bien que, par exemple, dans des départements qui sont dits sinistrés aujourd'hui, comme la Seine-Saint-Denis ou le Nord, on a effectivement des niveaux de vie qui sont bien en deçà de la moyenne nationale.
Le 5 novembre dernier, les juges des enfants du tribunal de Bobigny, chargés à la fois de juger les mineurs délinquants, mais aussi de prendre des mesures de protection de l'enfant, ont publié une tribune dans le journal Le Monde. Ils s'inquiètent des délais de plus en plus longs entre la prise d'une décision de protection et son application. Il peut se passer jusqu'à 18 mois.
Oui. Alors ça, c'est une réalité qui est intolérable, évidemment, qui s'est accentuée ces derniers temps. On est là aussi dans une tendance qui nous inquiète. Alors je dois dire que ces listes d'attente, on les voit un peu partout se prolonger. C'est intolérable parce que ça part de l'idée que ces enfants ont été reconnus comme étant en danger, que les juges ont prononcé une décision de protection. Ça veut dire soit il faut intervenir à domicile de façon à veiller à ce que l'enfant puisse retrouver dans le
cadre familial,
un accompagnement. Soit on les déplace, ça veut dire que on les sépare parce que le danger est tel que pour les protéger, il faut les séparer. Donc ça nous pose question, comment admettre qu'un enfant reconnu en danger suite aussi à une décision judiciaire, cette décision judiciaire ne soit pas exécutée? Ça pose d'abord le problème de que signifie la décision judiciaire si on ne l'applique pas, et que signifie le fait que l'on laisse des enfants dans une situation de danger. C'est comme si vous voulez, on reconnaît chez un patient une maladie grave qui nécessite une intervention rapide et que, ma foi, on lui dit on va attendre plusieurs mois, il y a une longue liste d'attente. Personne n'accepterait ça. Or, pour ces enfants, c'est peut-être parce que c'est une minorité silencieuse. hein, qui fait que c'est une maltraitance qui s'ajoute, en fait, en ne respectant pas leur droit à la...
Vous évoquez le département du Nord, début novembre, 650 oui. agents de l'agent de l'aide sociale à l'enfance, pardon, ont défilé devant l'hôtel du département à Lille pour dénoncer le manque de moyens qui a pour conséquence, disent-ils, de mettre en danger ceux qu'ils sont censés protéger. Vous avez suivi ce mouvement ?
Oui, bien sûr. Alors, ça rejoint Bobigny, puisqu'à Bobigny aussi, vous avez les professionnels du département hein, qui ont manifesté, tout comme ceux du Nord. Malheureusement, nous sommes là aussi à une conjonction de facteurs. Peut-être que il y a eu depuis 2010-2012, même si l'aide sociale à l'enfance a toujours été sanctuarisée, si vous voulez, les départements ont toujours donné les moyens à cette aide sociale à l'enfance. C'est vrai que par choix politique, parce qu'il y a aussi d'autres raisons de traiter l'action sociale, d'autres domaines, et que certains départements font le choix peut-être de réduire la voilure.
Je reprends l'exemple du Nord, même si
oui,
c'est
de fermer les
le seul département. 700 places supprimées en foyer d'accueil, 700 sur 5000. Alors l'argument budgétaire, au-delà de l'argument budgétaire, les responsables politiques disent qu'ils veulent rebasculer les moyens sur la prévention plus que sur la protection. Qu'en pensez-vous ?
Moi, je suis tout à fait d'accord. La vraie raison ce serait une raison tout à fait légitime si on disait on va migrer vers l'amont. Mais pour migrer vers l'amont, si vous voulez, c'est pas soit l'un soit l'autre. Il faut vraiment une période transitoire qui permette de redéployer vers l'amont, vers des actions de prévention qui sont nécessaires. On ne peut pas continuer à penser la protection de l'enfance comme étant simplement composée de réponses curatives. Il va falloir absolument que l'on migre vers cet amont. Pourquoi ? D'abord parce que les enfants ne peuvent pas se résoudre non plus à cette fatalité.
Ça veut dire quoi concrètement prévenir dans l'amont ? Quand il y a un enfant dont une institutrice par exemple ou un médecin signalerait un mauvais traitement, des bleus sur les bras, qu'est-ce que serait qu'une réponse en amont plutôt qu'une
séparation ? Avant d'arriver justement à ces situations, il faut qu'on apprenne à repérer, à être de meilleurs observateurs sur le terrain, que ce soit les professionnels du travail social, que ce soit les médecins, même libéraux, que ce soit les enseignants, la communauté éducative, il faut que nous soyons attentifs, beaucoup plus que nous ne le sommes aujourd'hui, à des signes qui peuvent indiquer qu'un enfant est dans le mal-être. Ça ne veut pas dire que systématiquement il est maltraité, mais ça doit nous interroger. Et c'est pour ça que nous pensons que vraiment, tout petit, mais même à l'école, c'est là, ce sont les domaines de vie de l'enfant privilégiés, c'est l'école. La santé scolaire est exsangue aujourd'hui. Or, ce serait des observateurs de première ligne que de voir que des enfants ne vont pas très bien. C'est ça, en amont. Et puis aussi, c'est soutenir les parents qui sont en difficulté, tout simplement, pas en échec, mais parce qu'ils ont des interrogations, ils ont des questions, ils sont isolés, ils n'y arrivent pas, ils ne savent pas, ils n'ont pas de relais peut-être autour d'eux ou les ressources qu'il faut pour les aider, pour les épauler. Et donc, ils ont besoin peut-être de parler, d'être écoutés tout simplement, de trouver des lieux où ils puissent être entendus. Mais le problème, c'est qu'on a remarqué aussi que ces dernières années, suite à des restrictions budgétaires, on a fermé beaucoup aussi de lieux d'écoute où les parents, notamment dans ces réseaux qu'on appelait les réap, où il y avait du soutien à la parentalité, on a pu constater qu'il y avait effectivement des remises en question de ces structures pour les jeunes, pour les familles, etc.
En un mot, les annonces qu'on attend du gouvernement au début 2019, si elles ne sont pas accompagnées de moyens, elles auront le moindre sens ?
Bien sûr, parce que la question des moyens dans l'immédiat, on peut penser le redéploiement, les mutations, les mutualisations, mais c'est une question de moyens aujourd'hui, dans l'immédiat ça brûle.
Merci beaucoup Fabienne Kerriot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.